Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères.
Radio U, textuel, lire pour vivre mille vies.
J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses.
Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront.
Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la
J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un.
Au chapeau de feutre.
Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme et tu es féministe depuis l'adolescence.
Accoudée au bastingage.
La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, j'ai horreur de l'amour. Déjà, on dit « tomber amoureux », ça veut dire que c'est un accident. Un accident plutôt rare, d'accord, mais une question de providence. Et moi, quand je tombe, j'ai peur de me faire mal. Donc, je ne veux surtout pas tomber amoureuse. Mais bon, forcément, ça arrive, comme de tomber malade. On n'y peut rien. Alors d'abord, comme chez Marivaux, tu te demandes si tu es amoureuse. Tu nies, tu crois, tu ignores, tu te moques. Mais tu es prise au piège et de toute façon, tu es prise dans un stratagème. Ensuite, tu es amoureuse, c'est sûr. Et alors commence la torture, le manque, l'attente, l'angoisse. Parce que l'autre est un être humain, en général, libre, en général, qui a son existence propre, donc incontrôlable, que tu aimerais contrôler, mais sans commander. Et les questions, 1000 questions, 10 000 questions, s'amoncellent. Sans parler des histoires à la Racine, A, M, B, qui aime C, qui aime D, qui est mort. Chez Racine, il n'y a pas de réciprocité. Dans la vie non plus, d'ailleurs. Bref, l'amour, c'est trop compliqué. Mais heureusement, il y a quelqu'un sur Terre qui a connu les mêmes supplices que moi. Et à lui, je peux tout raconter parce qu'il m'a tout raconté. C'est Roland Barthes quand il écrit « Fragments d'un discours amoureux ».
Seul dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages. Seul dans ma fête, c'est dommage. Et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau.
Les lunettes noires, cachées. Figure délibérative. Le sujet amoureux se demande, non pas s'il doit déclarer à l'être aimé qu'il l'aime, ce n'est pas une figure de l'aveu, mais dans quelle mesure il doit lui cacher les troubles, les turbulences de sa passion, ses désirs, ses détresses, bref, ses excès. En langage racinien, sa fureur. 1. X, parti en vacances sans moi, ne m'a donné aucun signe de vie depuis son départ. Accident, grève de la poste, indifférence, tactique de distance, exercice d'un vouloir vivre passager. Sa jeunesse lui fait du bruit, il n'entend pas. Ou simple innocence, je m'angoisse de plus en plus. Passe par tous les actes du scénario d'attente. Mais lorsque X ressurgira d'une manière ou d'une autre, car il ne peut manquer de le faire, pensée qui devrait immédiatement rendre vaine toute angoisse, que lui dirais-je? Devrais-je lui cacher mon trouble? Désormais passé? Comment vas-tu? Le faire éclater agressivement? Ce n'est pas chic, tu aurais bien pu. Ou passionnément? Dans quelle inquiétude tu m'as mis? Ou bien ce trouble, le laisser entendre délicatement, légèrement, pour le faire connaître sans en assommer l'autre. J'étais un peu inquiet. Une angoisse seconde me prend, qui est d'avoir à décider du degré de publicité que je donnerai à mon angoisse première. 2. Je suis pris dans un double discours dont je ne peux sortir. D'un côté, je me dis, et si l'autre, par quelque disposition de sa propre structure, avait besoin de ma demande ? Ne serais-je pas justifié, alors, de m'abandonner à l'expression littérale, au dire lyrique de ma passion ? L'excès, la folie ne sont-ils pas ma vérité, ma force ? Et si cette vérité, cette force, finissait par impressionner ? Mais, d'un autre côté, je me dis, les signes de cette passion risquent d'étouffer l'autre. Ne faut-il pas alors, précisément parce que je l'aime, lui cacher combien je l'aime ? Je vois l'autre d'un double regard. Tantôt je le vois comme objet, tantôt comme sujet. J'hésite entre la tyrannie et l'oblation. Je me prends ainsi moi-même dans un chantage. Si j'aime l'autre, je suis tenu de vouloir son bien, mais je ne puis alors que me faire mal. Piège ! Je suis condamné à être un saint ou un monstre. Saint ne puis, monstre ne veut. Donc, je tergiverse. Je montre un peu ma passion. 3. Imposer à ma passion le masque de la discrétion, de l'impassibilité. C'est là une valeur proprement héroïque. Il est indigne des grandes âmes de répandre autour d'elles le trouble qu'elles ressentent. Clotilde de Vaux. Le capitaine Paz, héros de Balzac, s'invente une fausse maîtresse pour être sûr de sceller hermétiquement à la femme de son meilleur ami qu'il l'aime à en mourir. Cependant, cacher totalement une passion, ou même simplement son excès, est inconcevable. Non parce que le sujet humain est trop faible, mais parce que la passion est d'essence faite pour être vue. Il faut que cacher se voie. Sachez que je suis en train de vous cacher quelque chose. Tel est le paradoxe actif que je dois résoudre. Il faut en même temps que ça se sache et que ça ne se sache pas. Que l'on sache que je ne veux pas le montrer. Voilà le message que j'adresse à l'autre. L'arwatus prodeo. Je m'avance en montrant mon masque du doigt. Je mets un masque sur ma passion, mais d'un doigt discret et retors, je désigne ce masque. Toute passion a finalement son spectateur. Au moment de mourir, le capitaine Paz ne peut s'empêcher d'écrire à la femme qu'il a aimée en silence. Pas d'oblation amoureuse sans théâtre final. Le cygne est toujours vainqueur. 4. Imaginons que j'ai pleuré. Par la faute de quelque incident dont l'autre ne s'est même pas rendu compte. Pleurer fait partie de l'activité normale du corps amoureux. Et que, pour que ça ne se voie pas, je mette des lunettes noires sur mes yeux embués. Bel exemple de dénégation, s'assombrir la vue pour ne pas être vu. L'intention de ce geste est calculée. Je veux garder le bénéfice moral du stoïcisme, de la dignité. Je me prends pour Clotilde de Vaux. Et en même temps, contradictoirement, provoquer la question tendre. Mais qu'as-tu ? Je veux être à la fois pitoyable et admirable. Je veux être dans le même moment enfant et adulte. Ce faisant, je joue, je risque. Car il est toujours possible que l'autre ne s'interroge nullement sur ses lunettes inusitées et que, dans le fait, il ne voit aucun signe. 5. Pour faire entendre légèrement que je souffre, pour cacher sans mentir, je vais user d'une prétérition retorse. Je vais diviser l'économie de mes signes. Les signes verbaux auront à charge de taire, de masquer, de donner le change. Je ne ferai jamais état, verbalement, des excès de mon sentiment. N'ayant rien dit des ravages de cette angoisse, je pourrai toujours, quand elle aura passé, me rassurer de ce que personne n'en aura rien su. Puissance du langage. Avec mon langage, je puis tout faire, même et surtout ne rien dire. Je puis tout faire avec mon langage, mais non avec mon corps. Ce que je cache par mon langage, mon corps le dit. Je puis à mon gré modeler mon message, non ma voix. À ma voix, quoi qu'elle dise, l'autre reconnaîtra que j'ai quelque chose. Je suis menteur par prétérition, non comédien. Mon corps est un enfant entêté, mon langage est un adulte très civilisé. 6. En sorte qu'une longue suite de contentions verbales, mes politesses, pourront tout d'un coup exploser en quelques révulsions généralisées. Une crise de larmes, par exemple, devant les yeux abasourdis de l'autre, viendra anéantir brusquement les efforts et les effets d'un langage longtemps surveillé. Je craque. Connais donc Phèdre et toute sa fureur. Conduite. Figure délibérative. Le sujet amoureux se pose avec angoisse des problèmes, le plus souvent futiles, de conduite. Devant telle alternative, que faire? Comment agir? 1. Faut-il continuer? Wilhelm, l'ami de Werther, est l'homme de la morale, science sûre des conduites. Cette morale est en fait une logique. Ou bien ceci, ou bien cela. Si je choisis, si je marque ceci, alors de nouveau ceci ou cela, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, de cette cascade d'alternatives, surgisse enfin un acte pur, pur de tout regret, de tout tremblement. Tu aimes Charlotte, ou bien tu as quelque espoir, et alors tu agis, ou bien tu n'en as aucun, et alors tu renonces. Tel est le discours du sujet sain, ou bien. Mais le sujet amoureux répond, c'est ce que fait Werther, j'essaie de me glisser entre les deux membres de l'alternative, c'est-à-dire je n'ai aucun espoir, mais tout de même. Ou encore, je choisis obstinément de ne pas choisir, je choisis la dérive, je continue. 2. Mes angoisses de conduite sont futiles, sans cesse plus futiles, à l'infini. Si l'autre, incidemment ou négligemment, me donne le numéro de téléphone d'un lieu où je peux le trouver, à telles heures, je m'affole aussitôt. Dois-je ou ne dois-je pas lui téléphoner? Il ne servirait à rien de me dire que je peux lui téléphoner, c'est le sens objectif, raisonnable du message, car c'est précisément cette permission dont je ne sais que faire. Et fut-il ce qui apparemment n'a pas, n'aura pas de conséquences. Mais pour moi, sujet amoureux, tout ce qui est nouveau, tout ce qui dérange, est reçu non sous les espèces d'un fait, mais sous celle d'un signe qu'il faut interpréter. Du point de vue amoureux, le fait devient conséquent parce qu'il se transforme tout de suite en signe. C'est le signe, non le fait, qui est conséquent par son retentissement. Si l'autre m'a donné ce nouveau numéro de téléphone, de quoi était-ce le signe? Était-ce une invite à en user tout de suite, par plaisir, ou seulement le cas échéant, par nécessité? Ma réponse sera elle-même un signe que l'autre interprétera fatalement, déchaînant ainsi entre lui et moi un chassé-croisé tumultueux d'images. Tout signifie. Par cette proposition, je me prends, je me lis dans le calcul, je m'empêche de jouir. Parfois, à force de délibérer sur rien, à ce que dirait le monde, je m'épuise. Je tente alors, par sursaut, de revenir, tel un noyé qui frappe du talon le sol marin, à une décision spontanée. La spontanéité, grand rêve, paradis, puissance, jouissance. Eh bien, téléphone-lui, puisque tu en as envie. Mais le recours est vain. Le temps amoureux ne permet pas d'aligner l'impulsion et l'acte, de les faire coïncider. Je ne suis pas l'homme des petits acting out. Ma folie est tempérée, elle ne se voit pas. C'est tout de suite que j'ai peur des conséquences, de toute conséquence. C'est ma peur, ma délibération qui est spontanée. 3. Le karma est l'enchaînement désastreux des actions, de leurs causes et de leurs effets. Le bouddhiste veut se retirer du karma. Il veut suspendre le jeu de la causalité. Il veut absenter les signes, ignorer la question pratique. Que faire ? Je ne cesse, moi, de me la poser et je soupire après cette suspension du karma qu'est le nirvana. Aussi, les situations qui, par chance, ne m'imposent aucune responsabilité de conduite, si douloureuses soient-elles, sont reçues dans une sorte de paix. Je souffre, mais du moins n'ai-je rien à décider. La machine amoureuse, imaginaire, marche ici toute seule, sans moi, comme un ouvrier de l'âge électronique ou comme le cancre du fond de la classe. Je n'ai qu'à être là. Le karma, la machine, la classe, bruit devant moi, mais sans moi. Devant le malheur lui-même, je puis, un temps très bref, m'arranger un petit coin de paresse.
Sur ma plage, je me tiens plus qu'un fil. Je ramasse mon coquillage fragile, solo dans ma gueule.
Domney, dépendance. Figure dans laquelle l'opinion voit la condition même du sujet amoureux, asservi à l'objet aimé. 1. La mécanique du vacelage amoureux exige une futilité sans fond, car pour que la dépendance se manifeste dans sa pureté, il faut qu'elle éclate dans les circonstances les plus dérisoires et devienne inavouable à force de pusillanimité. Attendre un téléphone est en quelque sorte une dépendance trop grosse. Il faut que je l'affine, sans limite. Je m'impatienterai donc du bavardage des commères qui, chez le pharmacien, retardent mon retour près de l'appareil auquel je suis asservi. Et comme ce téléphone, que je ne veux pas manquer, m'apportera quelque nouvelle occasion de m'assujettir, on dirait que j'agis énergiquement pour préserver l'espace même de la dépendance et permettre à cette dépendance de s'exercer. Je suis affolée de dépendance, mais, de plus, autre redent, je suis humiliée par cet affolement. Si j'assume ma dépendance, c'est qu'elle est pour moi un moyen de signifier ma demande. Dans le champ amoureux, la futilité n'est pas une faiblesse ou un ridicule. Elle est un signe fort. Plus c'est futile, plus cela signifie et plus cela s'affirme comme force. 2. L'autre est assigné à un habitat supérieur, un Olympe, où tout se décide et d'où tout descend sur moi. Ces descentes de décision sont parfois échelonnées. L'autre se trouve en lui-même assujetti à une instance qui le dépasse, en sorte que je suis sujet deux fois, de qui j'aime et de qui il dépend. C'est alors que je commence à rechigner. Car la décision supérieure dont je suis l'objet dernier, et comme aplatie, m'apparaît cette fois-ci comme tout à fait injuste. Je ne suis plus dans la fatalité qu'en bon sujet tragique je m'étais choisi. J'en suis rendu à ce stade historique où le pouvoir aristocratique commence à subir les premiers coups de la revendication démocratique. Il n'y a pas de raison pour que ce soit moi qui, etc. Le choix des vacances, avec leur calendrier compliqué, dans tel ou tel réseau dont je me trouve faire partie, favorise à merveille ces premières revendications.
Je peux plus voir, te voir dans toutes ces gueules.
Je vous ai lu les fragments d'un discours amoureux paru aux éditions du Seuil. En 1977.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.